cthibault.com.
Les infos, vos infos d'ici.
Et ça se répète encore aujourd'hui. Bonjour, beau temps, chaleur en ce mercredi. On s'habitue et j'ai hâte de nous voir lorsque la différence va arriver, là, parce que c'est dans pas long que ça se passe. Bonjour Félix-Antoine.
Bonjour Anne.
Ça va toujours bien?
Oui, toi-même?
Oui, ça va bien. Écoute, météo good aujourd'hui, 28, 33 humidex. Demain, on devait avoir de la pluie. Il n'y en a plus de pluie, puis il y a encore un humidex pour demain jeudi.
Bon, tu vois, tout est dans tout.
Tout est dans tout.
Je regardais même la semaine prochaine parce que là, j'avais l'impression qu'on allait se faire ramasser, mais je suis pas pire. Il y a encore du soleil la semaine prochaine. Prochaine, des 15, peux. 16. C'est pas pire, non?
En tout cas, moi, lundi, j'ai de la pluie 9. Mardi, de la pluie 9 degrés.
Ouais, mercredi, jeudi, vendredi. En tout cas, je suis pas trop loin.
Ouais, mais on ira voir plus loin. Ben. Tant mieux si c'est le cas.
Ben, moi, c'est ça que Météo Médium disait. En tout cas, sur mon téléphone, à ma tête, je suis allé voir. Ou c'est hier, ben, je me disais, je fais
une piscine. Je te crois.
Je me suis dit, ah non, je ne suis pas encore. Pas piscine tout ouais.
Félix-Antoine, on parle de produits forestiers résolus qui débutent le transport de bois brûlé vers Maniwaki.
La récolte de bois brûlé par les incendies a débuté au mois d'août par produits forestiers résolus. Depuis quelques jours, l'entreprise ZEP rapatrie ses récoltes à la scierie de Maniwaki. Le bois consumé par le feu ne peut pas être récupéré. Le directeur des opérations forestières chez Produits forestiers résolus, Jean-Philippe Etier, explique que ce qui est récupérable, c'est le bois qui n'est que partiellement incendié.
Faut faire attention à ce niveau-là. Donc, on récupère des tiges que le feu a passées, des tiges qui ont brûlé, les épines, le feuillage des arbres brûle, mais l'arbre en tant que tel, lui, ne brûle pas. Elle a noirci, mais la fibre de bois, faut pas qu'elle ait une dégradation.
Le longicorne représente le plus grand défi à la récolte du bois brûlé, puisqu'il s'attaque à la qualité du bois et donc à sa valeur.
Quand on tombe dans du bois qui a été perforé par les larves de longicorne, on se retrouve avec des pièces de bois là, qui ressemblent un peu à du fromage suisse, si on veut. Dans le fond, il y a une perte de valeur sur le marché de ce bois-là. C'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter un certain nombre de trous et de profondeur de trous par pied linéaire. Savoir combien de trous il y a au pied linéaire. Ça nous permet d'être capable de déterminer la qualité du bois qu'on est en train de récupérer.
Le directeur des opérations forestières chez Produits forestiers résolus explique que seules les basses températures peuvent arrêter cet insecte nuisible.
L'automne qu'on connaît présentement, les vagues de chaleur, c'est exceptionnel. C'est plaisant pour les villégiateurs, c'est plaisant pour passer des beaux week-ends, mais au niveau du longicorne, ce qui va le freiner, c'est la gelée, c'est les températures froides. Donc présentement, il n'est pas en dormance, il est en train de travailler.
Jean-Philippe Etier mentionne également que la récolte de bois brûlé nuit à la productivité des entrepreneurs forestiers.
Pour ce qui est des équipements, il y a une maintenance beaucoup plus fréquente à effectuer. Donc, il y a des changements de filtreurs, du nettoyage, du graissage, la cendre, la suie peut endommager les équipements. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que quand on parle d'intervention mécanique plus fréquente, on parle de ralentissement de cadence. Donc, au niveau de la productivité, bien, ça a un impact.
La récolte du bois brûlé représente donc plus un devoir qu'une opportunité pour les entreprises puisqu'elle facilite à terme la régénération des forêts.
Les places s'envolent rapidement là, pour la campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19.
Depuis lundi, les résidents des CHSLD, des résidences privées pour aînés, peuvent être vaccinés contre la grippe et obtenir une dose de rappel contre la COVID-19. Dès le 10 octobre, l'accès au vaccin sera élargi à la population en général pour les personnes qui se sont inscrites sur Clic Santé. Les Gatinois seront vaccinés au Château-Lauque de Maniwaki. Les plages de co-administration, là, c'est-à-dire les rendez-vous où il est possible de recevoir les deux vaccins lors d'une même séance, sont complètes pour le mois d'octobre. Toutefois, les gens désirant le vaccin contre la grippe peuvent encore s'inscrire pour octobre. En ce moment, plusieurs plages sont disponibles en novembre pour la co-administration et pour la vaccination antigrippale. Il n'y a pas de contre-indication à la co-administration de vaccins, mais il est possible que les vaccinés ressentent davantage d'effets secondaires. Ces vaccins sont offerts à tous et ce, gratuitement. Frédéric Morin, coordonnatrice clinique vaccination, dépistage et prélèvement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, énumère les clientèles les plus à risque.
Les personnes à risque de complications, donc les personnes âgées de 75 ans et plus, les personnes âgées de 6 mois à 74 ans avec maladie chronique, les femmes enceintes, puis les travailleurs de la santé ou les personnes vivant tous sur le même toit ou d'un aidant naturel, ainsi que les personnes qui vivent dans les communautés éloignées ou isolées.
D'autres services seront offerts au Château-Lauque, tels que l'évoque Mme Morin.
Le point de service local de Maniwaki va aussi offrir le dépistage contre la COVID pour la clientèle qui sont visées et aussi pour l'influenza.
La prise de rendez-vous s'effectue sur Internet au clicsanté.ca qu'on a appris à connaître durant la pandémie et également par téléphone au 1-877-644-4545. 4-5.
Parlons maintenant des restants du corps, Félix-Antoine, qui ont été retrouvés le vendredi dans le lac des Pères à Sainte-Thérèse-de-Gatineau.
C'est toute une histoire.
Toute une affaire, oui.
Les ossements humains qui ont été effectivement retrouvés par la Sûreté du Québec dans le lac des Pères à Sainte-Thérèse-de-Gatineau vendredi. Selon la Sûreté du Québec, les ossements proviendraient du même corps que le pied ramené à la surface par un pêcheur en juillet dernier. Depuis cette date, des recherches sont régulièrement effectuées dans le lac par des plongeurs. Ceux-ci ont fini par retrouver les restes du corps le 29 septembre. C'est ce qu'explique le sergent Marc Tessier, agent d'information à la Sûreté du Québec.
C'est les plongeurs qui sont retournés le 28 ainsi que le 29 septembre dernier. Et c'est le 29 là, que les plongeurs ont récupéré le reste des ossements qui avait été au départ, là, on parlait d'un pied.
Il s'agit donc des ossements provenant d'un corps entier. Ceux-ci ont été envoyés au laboratoire pour être analysés afin de tenter de déterminer l'identité de la personne.
Des ossements qui ont été récupérés par les plongeurs et ont été envoyés au laboratoire pour expertise et analyse. On est toujours en attente là, du résultat de l'ADN là, pour tenter d'identifier la personne là, à qui appartiennent les restes humains.
À la suite des résultats d'ADN, un travail de recherche sera effectué afin de déterminer si une personne est portée disparue dans ce secteur.
Par la suite, tenter de voir s'il n'y a pas une personne qui manque à l'appel. Ça peut faire là, des plusieurs dizaines d'années aussi. Donc, il va y avoir un travail de recherche qui va être effectué lorsqu'on va avoir le résultat d'ADN.
Les opérations de recherche dans le lac des Pères sont dorénavant terminées. La Sûreté du Québec est présentement en attente des résultats d'ADN pour mener à bien la suite de l'enquête. Et c'est ça, avec l'ADN, on va pouvoir déterminer
si c'est une femme ou un homme
en raison des chromosomes. Mm-hmm. On va pouvoir aussi probablement déterminer l'âge, se donner un approximatif de l'âge de la personne, depuis combien de temps cette personne-là, les ossements sont dans l'eau. En fait, avec ça, on va pouvoir déterminer plein de trucs. Et en fait, aussi, ils vont comparer ça avec leur banque de données. Habituellement, c'est ce qu'ils font. Là. Ils ne nous ont pas confirmé, mais c'est ce qu'ils font. Eux ont une banque de données d'ADN, comme on voit dans les films. Là. C'est vraiment ça.
Ça existe.
Donc là, tu sais, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est porté disparu, ben, ils vont aller chercher habituellement une brosse à dents, un peigne à cheveux. Ils vont récupérer donc des éléments comme ça pour aller retirer l'ADN. Et là, c'est dans leur fichier. Donc là, c'est après ça, ben, ils récupèrent de l'ADN. Ils vont pouvoir dire, ben, ça concorde avec tel dossier. C'est quand même poussé, hein, tout ça.
C'est tout un travail.
Donc, c'est pas une histoire qui est terminée. On va suivre ça jusqu'au bout. Puis ça progresse. Donc, et c'est tant mieux parce que ça aurait pu jamais aboutir, cette histoire-là. Et peut-être que ça n'aboutira jamais, mais les recherches ont quand même permis de poursuivre. Puis là, on sent qu'on s'en va quelque part où on va peut-être pouvoir faire la lumière là-dessus.
Par le pêcheur qui a décidé de garder le pied. Puis
C'est ça. Puis de pas couper la ligne parce que faut avoir le cœur sensible un peu.
Oh, que oui.
Donc, c'est ce qui en est.
Merci beaucoup, Félix-Antoine.
Bonne émission.
À tantôt.